Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libero per il traversone pericoloso, amore! Orsic! Pirlo, ancora Pirlo, di tecco, tiro! Grosso!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio BP, le podcast 100% foot italien. Petite trêve au milieu de notre calendrier de l'Avent que vous pouvez continuer à retrouver chaque jour, évidemment, sur vos plateformes d'écoute préférées. Ah, et oui, que vous avez l'habitude, pas besoin de le préciser, mais je le fais quand même. Je suis toujours, évidemment, en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Salut Johan, bonjour tout le monde. C'est vrai que tu es toujours en ma compagnie. Tu n'as pas changé pour l'instant.
Exactement. Et,
écoute, j'espère que.
Une petite infidélité avec Julien Laurence pour parler Roberto De Zerbi.
Que j'accepte. Que voilà. J'accepte parce que le podcast est très bien. Et d'ailleurs, le podcast qu'on peut retrouver, hein, qui est toujours en ligne sur notre ami Roberto De Zerbi. Mais voilà, de quoi va-t-on parler aujourd'hui, Johan?
Alors, Guillaume, on va parler de la Lazio. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le club romain. Mais avant ça, Guillaume, on l'avait dit. Pour tous ceux qui nous ont mis les 5 étoiles, et récemment, beaucoup de personnes nous ont écoutés, ont mis les 5 étoiles, un petit commentaire, et ben on va les remercier, Guillaume.
C'est vrai, donc, on l'avait promis.
Et oui, donc on va remercier Antoine7372 pour son 5 étoiles et son commentaire. Islaon, Wizyest, Home, Toti59300, Beno, Nielda, Kilai, Abdoudex, il y en a beaucoup, Aurelio, Prono à 2-3. Bon, celui-là, je crois qu'on l'avait déjà fait, mais je le refais quand même. Loïc Lecoq, Nizi Future, Chris, etc., etc. Pour tous ceux qui nous ont mis des étoiles, qui ont permis au podcast de se hisser dans le top 5 des podcasts football depuis un mois maintenant, dans le top 3 pendant une dizaine de jours également. Donc, merci à vous parce que ces commentaires, ces notes nous aident à monter dans les classements, notamment sur Apple Podcasts, sachant que sur Spotify, les commentaires n'existent pas, mais il y a des notes. Et on a aussi eu beaucoup de 5 étoiles également ces derniers temps. Donc, merci.
Merci, ouais. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Et surtout, Johan, même pour nous, ça nous fait du bien.
Ouais.
Au-delà des classements, ça nous motive. Ça, voilà, ça nous pousse pour la suite. Donc pour tous les nouveaux arrivants, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu le temps de mettre des étoiles ou de noter, allez-y, continuez. C'est Noël, Johan. Voilà, c'est notre petit cadeau à nous. Hein. Et en plus, c'est gratuit. Et en plus, c'est gratuit.
Et en plus, voilà. Ça prend 30 secondes, t'imagines ?
Voilà, donc allez-y, avant Noël, faites-nous plaisir, continuez en masse, partagez le podcast sur les réseaux, parlez-en à vos amis, notez-nous, voilà. On est là avec vous pour ces fêtes et on va encore continuer à parler du foot italien pour bien des saisons, Johan.
Alors Guillaume, tu l'as dit, on va s'intéresser à la Lazio aujourd'hui. Son début de saison, à la fois en Serie A d'ailleurs et en Ligue des Champions, parce qu'il y a deux, c'est un peu deux salles, deux ambiances hein, depuis le début de la saison entre les deux compétitions. On va commencer par les résultats, Guillaume. Lazio 9e du classement actuellement, à 4 points de la 4e place. Donc finalement, classement assez serré hein, pour les positions 4, ouais. 5, 6, 7, 8 et tout ce qui s'ensuit. Dernier match, une victoire contre Cagliari 1-0. On va y revenir, mais c'était un match quand même particulièrement pénible, avec en plus un Cagliari à 10 pendant 70 minutes. Ça, c'est l'ambiance un peu morose en championnat. Et notamment, c'était Sarri était très agacé après la défaite contre la Salernitana il y a une dizaine de jours. Et puis en Ligue des Champions, par contre, Guillaume, tout roule. 10 points après 5 matchs, et surtout Guillaume, dans un groupe avec l'Atlético, le Feyenoord et Celtic, qualifié après 5 matchs.
C'est vrai, c'est une belle performance hein, parce que le groupe est loin d'être simple. Alors évidemment, voilà, le Celtic et l'Atlético, même, voilà, on n'est pas sur les grandes équipes des dernières années, mais bon, tu as quand même un Griezmann qui est toujours en forme Atlético. Tu as fait Feyenoord, Johan, toi qui suis le championnat néerlandais, qui fait quand même plutôt une bonne saison. Donc bon, c'était voilà, ça pouvait paraître compliqué sur le papier parce que c'était que des matchs pièges. Et t'en sortir et te qualifier déjà avant la dernière journée, voilà, c'est une performance que pas grand monde aurait pu imaginer. Mais ce qui... Voilà, ce qui est assez étonnant, Johan, tu l'as un peu dit, c'est le contraste vraiment qui existe entre l'AC1 et championnat. Il y a vraiment, on a l'impression, deux équipes, deux visages. Et c'est probablement ça qui agace les supporters et les tifosi.
Exactement. Alors, pour continuer dans le positif, il faut aussi noter le caractère que regrette, en l'occurrence, c'est le manque de caractère que regrette Sarri en Serie A. Par contre, le caractère affiché par cette équipe en Ligue des Champions, et il y a deux matchs pour ça qui vont illustrer. Le match à Glasgow, où tu l'emportes à la 95e, quelque chose comme ça, en toute fin de match avec un but de Pedro, qui était entré en jeu. D'ailleurs, tous les joueurs qui étaient entrés en jeu avaient touché le ballon sur cette action. Et puis, juste avant, il y avait eu la réception de l'Atlético avec... C'est ce qui va rester un moment fort de non seulement de la Lazio, de la saison de la Lazio globalement, de la Lazio en Ligue des Champions cette saison et même du football italien, je pense, en Coupe d'Europe cette saison. C'est le fameux but de Provedel à la 95e de la tête.
Incroyable. De voir déjà un gardien marqué, c'est assez rare. Mais surtout, tout ce qui fait la dramaturgie de cette scène, c'est, tu l'as dit, le match, l'enjeu, l'adversaire. Et puis, surtout, le mouvement de Provedel.
Ouais.
Il fait l'appel, il est pas hors jeu, il anticipe le gardien, il anticipe au black. Et je pense vraiment, et d'ailleurs, Provedel, qui est l'un des meilleurs éléments cette saison, hein, et depuis son arrivée à Lazio, hein, ou alors à la base, on le rappelle, il était pas titulaire. C'était Massimiliano qui devait l'être. Et finalement, Provedel est parvenu à gagner sa place à juste titre. Mais justement, dans ce but-là, pour moi, ce but-là, il est rempli de symboles. Parce que, alors, on va en parler des problèmes que peut avoir la Lazio, notamment au niveau du jeu, mais au niveau du caractère, je trouve quand même que cette équipe, parfois même dos au mur, est parfois critiquée par les médias romains et par ses supporters, est toujours capable d'aller puiser des ressources là où on ne l'imagine pas. Et tu vois, dans l'idée de joueurs qui ressemblent à ça, tu vois, Guendouzi, dans le caractère, tu vois, un peu trempé, et d'ailleurs, on le voit, hein, les tifosi aime sa personnalité, aime la façon dont il est et ce qu'il dégage sur un terrain. Voilà, je trouve qu'il colle un peu avec ce supplément d'âme que parfois la Lazio est capable de donner en des moments. On va aussi parler du Calcio Immobile, mais tu vois, Immobile qui parfois est sur le banc et voilà, il est sorti de banc lors du dernier match de C1 contre le Celtic et il te sort un doublé. Il y a vraiment des moments où cette équipe-là est capable de ressortir quelque chose dont on oublie.
Ouais.
Et tu le vois à certains moments compliqués de la saison. Il y a toujours quelque chose qui fait que la Lazio, parfois, sont sur un extrémiste, mais elle s'en sort quand même.
Et ce qui peut être frustrant aussi pour Sarri, c'est de se dire, OK, tous ces moments un peu de grâce qu'on a vus en Ligue des Champions, parce que tu as parlé aussi évidemment d'Immobilier contre le Celtic, qui, dans un match qui n'était pas si simple que ça, hein, finalement, et l'entrée d'Immobilier a un peu tout changé. quand lui voit ça en Ligue des Champions, dans les grands soirs de Ligue des Champions, et qu'ensuite le week-end à Salerne, globalement à l'extérieur depuis le début de la saison, parce qu'il y a 5 défaites en 7 matchs, je crois, de mémoire à l'extérieur, tu te dis, mais ce manque de caractère, ce manque de régularité, comment le gérer, comment parvenir à l'effacer, c'est pas simple en fait, parce que sincèrement, je pense pas que ça soit technico-tactique entre la Ligue des Champions et la Lazio, parce qu'on sait comment va jouer la Lazio. Parfois, les joueurs, les interprètes peuvent changer, mais globalement, on sait ce qu'on va trouver avec la Lazio, et c'est la même chose en championnat en Ligue des Champions. Ce qui fait vraiment la différence, je trouve, et c'est ce que Sarri déplorait tant après la défaite à Salerne, c'est la perte de mentalité au quotidien, cette volonté de toujours se dépasser, d'aller chercher les moments clés du match avec les dents. Et lui, ce qu'il voit, c'est qu'en championnat, trop souvent en championnat, avant, après la Ligue des Champions, mais parfois tout simplement même pas encadrant un match de Ligue des Champions, il a du mal à retrouver ça. Et on sent des joueurs qui, effectivement, bon, la jouent peut-être un peu plus, je vais pas dire facile, mais décontractée en tout cas en championnat.
Oui, surtout, même toi, au niveau du degré d'exigence que tu vas avoir, parfois, avoir envers toi-même. Et c'est vrai que parfois, tu sens qu'à la Lazio, moi, le match vraiment qui m'a marqué dans le mauvais sens, Johan, je sais pas toi, c'est le match à Salerne.
Ouais, c'est incroyable.
Où vraiment, t'as une équipe qui mène, qui fait le plus dur. Parce que, alors, après, Salerne, on le sait, c'est un terrain compliqué, mais voilà, quand tu fais le plus dur, que tu mènes 1-0 et que tu t'écroules comme ça de, voilà, sans réaction, sans, voilà, d'une manière totalement désinvolte, au point qu'on, voilà, de ce qui avait filtré, Johan, c'est qu'après le match, il y avait quand même beaucoup de frictions entre Sarri et son groupe. On sait que le directeur sportif de la Lazio est intervenu, bah voilà, pour dire de toute façon, faites ce que vous voulez, mais Sarri va rester. Et si c'est lui le problème, ce qui ne l'est pas, hein, je pense, mais Sarri avait dit, hein, si c'est moi le problème, moi je m'en vais. Et lors de la Lazio, on dit non. Le directeur sportif a dit, dans tous les cas, Sarri, évidemment, restera cette saison, voire plus. Évidemment, Claudio Tito, hein, le président de la Lazio, voilà, on le connaît, on connaît le personnage, qui avait tapé du poing sur la table en disant que ça ne pouvait pas continuer comme ça et que s'il fallait changer des choses, ce serait le cas. Et d'ailleurs, le match face au Celtic, Johan, tu as quand même des choix assez forts, hein, de servir avant le match, dont Immobilier sur le banc. Alors voilà, après, il met son doublé, mais mettre ton capitaine sur le banc, malgré la saison qu'il connaît, alors parfois un peu tourmenté, ça reste un choix fort. Il avait d'ailleurs titularisé aussi Isaksen, hein, sur le côté droit.
Il y avait Anderson exactement, ouais, sur le banc, et aussi, oui, Cataldi, hein, était sur le banc.
Exactement. Donc, il y a eu des choix.
Non, Anderson était titulaire, pardon, c'est... puisque Zaccagni était, je crois, de mémoire, blessé, hein, contre le Celtic.
Il était blessé, exactement. Il était blessé, je crois.
Ouais, c'est ça.
Anderson était à gauche, il y a accès à droite et
Castellanos devant.
Et Castellanos, voilà. Castellanos qui était à la place de l'Immobilier. Mais voilà, en tout cas, c'était des choix forts faits par Sarri pour dire qu'il n'y a pas de hiérarchie et pour aussi faire comprendre que tu ne peux pas te permettre de ne pas jouer à Salerne et espérer être titulaire 3 jours après contre le Celtic. Donc, oui, c'est vraiment un manque de régularité qui agace beaucoup à la Lazio. On voit, Johan, qu'il y a des frictions. La plus récente, on peut en parler parce que voilà, on a eu connaissance ces dernières heures, c'était Vecino qui a été exclu du groupe, visiblement pour un désaccord, de ce que j'ai compris, avec un membre du staff de Sarri. Il y aurait quelques paroles qui auraient été échangées un peu fortes entre les deux, mais Vecino était exclu du groupe. Donc on voit bien qu'il y a un manque de sérénité aussi. Quand tu as une saison qui est parfois un peu en dents de scie, ça peut parfois affecter ton moral, affecter ta sérénité, affecter l'euphorie aussi qui régnait la saison dernière à Lazio, hein, parce que Lazio fait une super saison, elle retourne en C1. Il y avait eu beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et c'est vrai que sur cet exercice 2023-2024, quand c'est plus compliqué, tu sens quand même que les turbulences sont assez fortes et le groupe empathie, Sarri empathie, c'est pas le genre d'entraîneur, Johan, tu le sais, qui garde ça dans sa poche quand il le veut en conférence de presse. Donc il faut vraiment que la Lazio trouve, on va dire, son ordre de marche pour avoir une espèce de régularité qui pour l'instant vraiment lui fait défaut. Et tu l'as dit, elle a pas le droit de perdre autant à l'extérieur. C'est vraiment un manque flagrant de concentration, d'exigence, d'application. Et résultat, alors, c'est pas dramatique, parce que tu as 4 points de la 4e place, qui pour moi reste l'objectif primaire de retourner en C1. Dans l'espoir, peut-être que la 5e soit aussi qualificative, hein, pour avoir en fonction du coup FUFA, dans la nouvelle formule de Ligue des Champions. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de drame. Mais on voit bien que les turbulences, quand même, qu'il y a parfois à la Lazio, c'est des turbulences assez fortes, assez sèches, et qui font du mal au groupe de Sarri et à Sarri lui-même.
Et pour eux, par contre, ils vont avoir le calendrier, si tant est qu'ils réussissent un peu mieux contre des mal classés, mais parce qu'ils ont perdu aussi contre le Genoa en début de saison. Mais là, ils vont enchaîner. Alors, je ne parle pas du match de l'Atlético, hein, en Ligue des Champions où ils vont jouer la première place, mais ils vont enchaîner Hellas Vérone. Le seul match vraiment où on peut dire c'est très compliqué sur le papier, l'Inter. Et après, c'est Empoli, Frosinone, Udinese, Lecce. Donc là, tu as quand même toute une batterie de clubs mal classés, plus ou moins bien mal classés, plutôt plus ou moins mal classés, où on attend des victoires. Parce qu'en début de saison, ce qu'avait dit Sarri sur le calendrier, que c'était très compliqué, effectivement, parce que, souvenons-nous, ils avaient joué le Napoli, la Juve, dans les 4 premières journées. Effectivement, c'était un peu délicat, avec notamment 3 matchs à l'extérieur. Mais depuis, il y a quand même une forme aussi d'irrégularité qui s'est inscrite dans cette équipe, et c'est ça qui est un petit peu usant pour les tifosi. Il y a aussi autre chose, Guillaume, si on s'intéresse un peu sur le jeu. Ce manque de caractère fait que sur certains matchs, on voit une équipe vraiment très brouillonne, qui ronronne, qui met pas beaucoup de vitesse et d'intensité, et ça ennuie beaucoup Sarri. Et quand on regarde un peu les chiffres avancés, tu sais que ça me plaît beaucoup. sur le plan du jeu, on retrouve pas une équipe clairement identifiable ou très marqué par une identité de jeu. Et ça, c'est ce qui est plus décevant, parce que même déjà l'année dernière, où c'était bien mieux en termes de résultats, moi, j'ai noté quand même des indicateurs statistiques sur la possession, le pressing, le nombre d'occasions créées, sur les récupérations hautes, le nombre de ballons joués proche de la surface, enfin toute une batterie de chiffres qui effectivement confirmaient mon impression visuelle d'une équipe qui n'était pas une équipe flamboyante dans le jeu, mais qui avait par contre une chose pour elle, et c'était déjà le cas en 2021-2022, c'était une énorme surperformance devant le but, et je vais donner les chiffres. 2021-2022, c'est 74 buts marqués pour 55 expected goals, la plus grosse surperformance des 4 grands championnats européens. Ni plus ni moins. Et en 2022-2023, 60 buts marqués pour 51 XG. C'est la deuxième plus grosse surperformance chez les gros en Italie et la 11e dans les 4 grands championnats européens. Donc les 2 saisons précédentes, ils ont eu cette faculté à marquer des buts compliqués, à tirer le maximum des occasions qu'ils créaient. Et chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ils ont 17 expected goals produits en 14 matchs et beaucoup moins de buts marqués, entre guillemets, en tout cas moins de surperformance par rapport à la production des occasions. Donc là, ils payent un petit peu le fait de, pendant 2 ans, tu étais un peu en sur-régime, je pense, devant le but, ce qui t'a amené à beaucoup de résultats. Et là, bah, cette saison, tu payes un peu cette panne devant le but, entre guillemets, ou ce manque de surperformance, qui est un peu symbolisé aussi d'ailleurs par Immobilier, hein, Guillaume.
Oui, bien sûr. Bah, Immobilier, voilà, c'était le cas le plus éclatant, où vraiment, alors on ne peut pas dire que son statut est remis en cause, parce qu'il reste quand même le symbole de Lazio, le capitaine quand il est sur le terrain. Donc c'est compliqué de le remettre en question, mais il y a quand même une espèce d'alternance, hein, qui s'est installée, ouais. Johan, parce que Cassiello s'est quand même montré des belles choses quand il est aligné. Il a justement ce tempérament que parfois recherche Sarri, cette instabilité, cette hargne qui part devant lui, et même pour servir ses coéquipiers, hein, quand il est dos au but. Mais moi, je voulais poser comme question, Johan, c'est est-ce que tu penses, c'est peut-être une question un peu bateau, mais je sais qu'elle est souvent posée à Sarri, c'est est-ce que tu, alors, la réponse est évidemment oui, mais si on creuse un peu, est-ce que pour toi, le départ de Milinkovic-Savic est vraiment préjudiciable à cette équipe-là, ou est-ce que, voilà, c'est un départ, alors, on connaît l'importance qu'avait le commandant, comme il était surnommé à Lazio pour cette équipe et pour ce club, même dans la leadership et dans ce qu'il dégageait, mais il était aussi décisif. Est-ce que pour toi, justement, dans la surperformance dont tu parlais, est-ce que l'absence de Milinkovic aussi est préjudiciable pour ce manque parfois de captivité, tu vois, que tu as devant le but, et même ce manque peut-être de joueurs décisifs, justement, pour aller marquer, pour aller chercher la faille devant?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, le manque de leadership, oui, clairement, je trouve. Parce que mine de rien, même si c'était pas
d'impact
quelqu'un...
aussi, tu vois, d'impact.
Voilà,
ouais.
exactement. Ce n'était pas forcément quelqu'un qui haranguait sans arrêt ses coéquipiers, etc. Mais par sa simple présence, il imposait quelque chose. Par le statut qu'il avait acquis, par plein de choses. Par sa personnalité également. Dans le jeu, évidemment qu'il y a eu une perte parce que cette volonté de souvent toucher Milinkovic-Savic un peu dos au but pour faire progresser les autres milieux de terrain, les joueurs sur les côtés, ou jouer sur les déviations de la tête, parce que c'est un formidable joueur de tête, Milinkovic-Savic. Et donc, dans le jeu long, il était très utile aussi pour la profondeur d'Immobilier qui anticipait les déviations de la tête, etc. Évidemment qu'il manque. Ça me semble vraiment, oui, indéniable, entre guillemets, si tu veux. Après, tu vois, dans les chiffres, il était dans cette surperformance-là parce que, par exemple, si je reprends en Serie A, Milinkovic-Savic, la saison dernière, c'est 7 expected goals et 9 buts. Donc, il est en légère surperformance. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant parce que c'est aussi un peu si tu veux, le destin de ces équipes comme la Lazio de perdre des joueurs. Ce qui est anormal, d'ailleurs, c'est de ne pas l'avoir perdu avant parce que c'était vraiment un grand joueur. Et là-dessus, les supporters ne peuvent rien dire à Lotito parce que Lotito a fait le choix de le conserver, parfois donc de faire moins de mercato, mais de conserver les meilleurs joueurs. C'est un choix qui est tout à fait respectable, je trouve, et qui n'est pas un manque d'ambition pour le coup, parce que tu gardais tes meilleurs joueurs. Mais une fois que tu as dit ça, pour moi, Sarri aurait dû trouver aussi des parades à cette absence de Milinkovic-Savic. Trouver de nouveaux schémas de jeu, enfin, plus que des schémas de jeu, des schémas de passe, des actions construites avec des circuits préférentiels différents, parce que le long ballon sur Milinkovic-Savic, bah là tu ne l'as plus, tu n'as plus de milieu de terrain capable de faire ça, donc il faut trouver autre chose avec d'autres qualités de joueurs. Et pour le moment, je ne le vois pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, peut-être qu'il faut du temps aussi également. Par exemple, un joueur comme Kamada est décevant pour l'instant, mais en soi, ce qu'on a vu à Francfort, c'est pas un mauvais joueur, Kamada. Donc peut-être qu'il va réussir à finalement apporter quelque chose, parce que pour le moment, c'est vraiment pas le cas. Au contraire d'un Guendouzi dont on parlait tout à l'heure. Isaacson est en train de monter un petit peu en puissance là sur les deux trois derniers matchs et il fait des choses intéressantes. Mais c'est moi qui le connais puisque il jouait au Danemark et donc je l'ai vu jouer plusieurs fois dans le championnat danois. C'est vraiment un joueur intéressant et aussi en Coupe d'Europe. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe de la Lazio. Mais moi, j'attends plus de Sarri. Sarri, il a un côté qui m'agace profondément, comme Mourinho, c'est de toujours se plaindre des arbitres après le match, de toujours discuter,
Calendrier.
ouais, du calendrier, des arbitres. Il y a toujours un truc extérieur, même en laissant penser que c'est un peu truqué le calendrier, etc. Et ça me déplaît profondément, comme ça me déplaît pour tous les entraîneurs qui le font. Et sur le plan du jeu, moi, j'attends plus de Sarri. Et je trouve qu'il est très protégé en Italie parce que tout le monde se souvient de son Napoli, qui était extraordinaire. Et je trouve qu'à la Lazio, il devrait faire mieux avec les joueurs qu'il a. Et tu vois, en termes de qualité de football, si je te dis, Guillaume, en termes de je ne pense pas aux résultats, mais en termes de prestations abouties et de qualité de football, est-ce que tu as vu un pas en avant par rapport à Simone Inzaghi?
Non, et parce qu'en plus, Simone Inzaghi prouve qu'il est quand même un grand entraîneur. Mais c'est vrai que là, comme ça, de premier abord, on ne peut pas dire que la Lazio joue mieux ou même beaucoup mieux que sous Simone Inzaghi, voire même l'inverse sur certains matchs, certaines périodes. Donc, tout cas, dans tous les cas, il y a débat. Et du moment qu'il y a débat, c'est alors que faut quand même rappeler et recontextualiser rapidement, c'est que quand ça y arrive, c'est quand même un énorme coup pour la Lazio. C'est un entraîneur à l'époque, il est quasiment hors de portée. Il était passé à la Juve, il venait de gagner à Chelsea. C'est un entraîneur qui avait une énorme cote et qui l'a plutôt encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose que personne n'aurait imaginé, encore moins que Mourinho à la Roma. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on attendait vraiment quelque chose de. Alors, j'ai pas envie de dire de grandiose, parce que c'est peut-être trop. Mais en tout cas,
plus léché, en tout cas.
Exactement, tu vois, revoir des bribes du fameux Sarri. Donc, comme tu l'as dit, le Napoli de Sarri 2017-2018, il a tellement, tellement marqué son époque, hein, même s'il gagne pas au bout. Il y a vraiment eu une espèce de prise de conscience au niveau du jeu, chez d'autres coachs, sur la prise d'émotion, sur plein de choses. Et c'est vrai qu'à la Lazio, en tout cas, voilà, il y a eu des bonnes périodes, il y a eu des beaux matchs, il y a eu des très grands matchs. Mais c'est vrai que si tu compares à la Lazio de Simone Inzaghi, il avait quand même beaucoup gagné chez Johan, hein, les Coupes d'Italie, les Supercoupes, et même en Primavera. Hein, il faut rappeler que Simone Inzaghi arrive de la Primavera où il avait quand même fait des très très belles choses. En tout cas, le débat est posé. C'est un débat qui est assez intéressant et je pense, Johan, qu'on ne se pose pas assez en Italie. Je vois rarement des comparaisons entre la Lazio de Simone Inzaghi et de Mancini. Alors certes, les effectifs sont différents, les périodes le sont aussi, mais c'est vrai qu'on a trop tendance à oublier parfois ce qu'était justement la Lazio de Simone Inzaghi, celle qui bat la Juve, par exemple, en finale de coupe. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de souvenirs maintenant à l'esprit de la Lazio d'Inzaghi. Celle de Sarri, c'est vrai que parfois, comme tu le disais, le verbe un peu que tu as dit, c'est ronronner. On voit que parfois, elle a des belles intentions, mais ça se traduit parfois très peu dans tout ce qui est au niveau du concret.
Après, il reste la masterclass des sorties de balles dans les 30 premiers mètres. C'est sans doute l'entraîneur le plus impactant là-dessus en Italie. Il y a vraiment des... Alors, depuis que Spalletti n'est plus entraîneur en championnat, mais là-dessus, sur les sorties de balles, c'est extrêmement travaillé. C'est même esthétiquement très joli à voir, hein, pour le coup. Mais par exemple, dans le dernier tiers du terrain, dans les 40 derniers mètres adverses, là, j'attends plus de choses et je ne vois pas assez de choses, justement. Et je ne sais pas s'il pourra le faire. La Lazio a quand même renforcé son effectif malgré la perte de Milinkovic-Savic. Aujourd'hui, il y a un vrai banc, je trouve, à la Lazio, même s'il y a eu, il faut en tenir compte, les blessures de Romagnoli, de Casal et de Zaccagni. Ouais. Et ça, il faut en tenir compte, hein, parce que dans des moments importants, il faut aussi avoir ton effectif au complet. Mais on peut le dire de tous les clubs. Hein, le Milan a eu plein de blessures. Le Napoli commence à avoir des blessures.
L'Inter a des
blessures. La Juve la Juve, combien de matchs ils ont fait sans Vlahovic, sans Chiesa, etc. La Roma a des blessures. Donc finalement, on peut le dire de tous les clubs. Donc c'est pas suffisant, en fait, pour Sarri. Et j'aimerais bien voir un peu plus de football. Après, il aura pour lui les résultats en Ligue des Champions qui étaient, je ne veux pas dire que c'est inattendu, mais qui sont de qualité. Ouais. On verra ce qui sera possible de faire en huitième de finale. Mais en tout cas, la saison européenne, elle est déjà réussie de la Lazio. Maintenant, il faudrait réussir à accrocher les quatre premières places avec un peu plus de qualité de jeu. On verra dans les semaines à venir.
Tu l'as dit, hein, le calendrier. Hein, le calendrier est plutôt... Oui. Une guichèse, comme
bah, disons,
en
tu,
Italie,
tu vois, si on doit prendre tous les candidats pour les quatre, enfin pour la quatrième place, pardon, pour moi c'est un des meilleurs calendriers d'ici à la mi-janvier.
Et quand tu l'as énuméré tout à l'heure, moi la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le contraste avec celui de la Roma.
Ouais.
Que j'ai revu, je l'ai revu dimanche après le match à Sassuolo. La Roma, le calendrier jusqu'à janvier, c'est
incroyable.
Quelque chose de...
C'est le Napoli, la Juve, l'Atalanta, le
Milan en janvier, c'est hallucinant. Donc voilà, il y a 4 points entre la Roma 4e et la Lazio 9e. Si la Lazio veut dépasser la Roma ou du moins veut revenir à hauteur, je pense que voilà.
Mais tu sais,
on
fin décembre,
sur un virage décisif, hein.
Fin décembre, il peut y avoir. On passait de 4 points de plus pour la Roma à 4 points de plus pour la Lazio. Hein. C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible.
Mais c'est justement là qu'on va voir si Alado est capable, justement, toi aussi, de. C'est aussi ça que j'attends d'Alado Sarri, moi. C'est faire preuve de maturité parfois. En Ligue des Champions, elle est capable parfois de comprendre le moment, de comprendre certaines phases de jeu, de comprendre la période et d'aller chercher des choses parfois inattendues. Et c'est vrai qu'en Serie A, parfois, on sent qu'elle se laisse un peu embarquer, qu'elle se laisse un peu mener dans les pièges, comme à Salerne, où elle avait tout en main, elle s'est laissée tomber de manière assez bête, et c'est ce qui a agacé le bord de la Lazio. Mais voilà, j'ai aussi besoin que cette équipe-là, aujourd'hui, avec Sarri, maintenant, ça commence à faire un bout de temps que Sarri est avec ce groupe-là, et les nouvelles pièces, quand même, se sont plutôt bien intégrées. Je vais attendre sur cette équipe-là qu'elle fasse preuve, justement, de maturité à certains moments de la saison. Et là, dans les 5-6 prochains matchs, on va voir si elle est mature parce que le calendrier est clairement à la portée. Et si tu veux accrocher les 4 premières places, c'est le moment ou jamais.
Voilà Guillaume qui boucle notre point sur la Lazio. On ne l'avait pas encore fait dans ce début de saison. Ça nous paraissait important parce que c'est un sujet qui est aussi très discuté en Italie. Donc on se devait de l'évoquer tous ensemble. N'oubliez pas donc les 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Continuez à écouter le calendrier de l'Avent jusqu'au 24 décembre. Et puis, on se retrouve très rapidement. Nous, Guillaume, on peut déjà le présenter. On fera un point post-Coupe d'Europe pour évoquer un petit peu toutes les performances des clubs italiens en Coupe d'Europe. Donc, au lendemain de la dernière journée de Ligue des Champions, Europa League.
Et C1, C3, C4. Hein,
Conférence League, exactement. Ouais. Merci, Guillaume. Et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.